Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue dans votre émission littéraire Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère et la librairie La Livrerie. Chers passionnés de mots et de réflexions qui nous écoutent ce soir, sache qu'aujourd'hui nous allons t'embarquer dans un voyage intellectuel explorant l'univers fascinant des essais littéraires, ces joyaux de pensée qui transcendent le simple récit pour nous guider dans les méandres de la réflexion et de l'argumentation. Ce soir donc, pas de fiction mais plutôt une plongée dans l'intellectuel, dans des explorations politiques, philosophiques ou artistiques, car les essais nous invitent à questionner le monde qui nous entoure afin de comprendre le présent et imaginer le futur. Et en parlant de compréhension, non, je ne vous dirai pas que je n'ai absolument rien compris au livre que l'on m'a proposé à ces exercices d'anticipation pour s'accrocher à ce qui vient, cette réflexion sur les modalités de description ethnographique de ceux qui s'absentent à partir de l'exercice d'anticipation où l'on imagine un moment postérieur à la disparition d'une scène, d'une situation sur le mode du « je me souviens de » Non, cher lecteur, chère lectrice. Je vais peut-être te présenter cet ouvrage, Parier sur l'espérance, et nous allons nous balader ensemble dans les coulisses de la pensée humaine. Nous allons nous balader pour ensuite agir, car les essais ne se contentent pas de nous émerveiller, ils nous appellent à l'action. Ces textes incitent souvent à la réflexion personnelle, à l'engagement civique ou à la remise en question de nos propres croyances. Ils nous poussent à devenir des penseurs actifs, des citoyens critiques dans un monde complexe. Et profite bien de cette émission, cher lecteur, car ma première action, suite à la lecture de ces essais, sera de te dire « C'est fini, nous ne retrouverons plus jamais ce thème dans cette émission ». Bonjour Pauline, ça va ?
Salut tout le monde.
Je ne sais plus qui a choisi ce thème la dernière fois.
Je ne sais pas, c'est une drôle d'idée.
Je pense que c'est Marlène, mais je n'en suis pas sûr. Salut Marlène.
Salut, mais moi je suis sûr que c'est pas moi.
Eh non, parce que c'était Pauline. Salut Valérie qui a lu 830 essais depuis dimanche.
831, je viens de finir le 831e.
Ah ben c'est
sur
bien.
Le gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes.
Ah. J'ai la bio de cette autrice.
Comment tu pouvais le savoir ? Je l'ai lu ce matin.
J'ai la bio de cette autrice.
Incroyable, es-tu ?
C'est ça.
Aussi incroyable que la présence...
De Maxime, qui a tellement aimé cette formidable émission de Noël qu'il a décidé de revenir avec nous. Salut Maxime.
Salut, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau.
Écoute, c'est avec plaisir. Hein. Valérie, donc, au vu du nombre impressionnant d'ouvrages que tu vas nous présenter, je vais te laisser commencer.
Avec grand plaisir.
Oui.
Ah, on maintient quand même cette émission sur les essais.
Bien sûr. C'est pas parce que j'ai mal travaillé que dois punir tout le monde.
Non, mais le thème est super, mais qu'est-ce que c'est dur de choisir, de lire un essai. Moi, le premier que j'ai choisi, j'ai réalisé là, en descendant, en discutant avec Maxime d'auteurs russes, que mon auteur italien dont j'allais parler, rien à voir, en fait, était philosophe et pas du tout essayiste. Donc là, j'essaye une petite pirouette, une petite diversion, là, c'est du gaslighting, n'est-ce pas ? Voilà. Mais déjà, je me suis trompée. Première référence, bim, je me trompe. Mais comme j'ai beaucoup aimé, j'ai le droit d'en parler.
Absolument.
Alors, tu avais fait la bio de Carlo Ossalo ?
Pas du tout, je ne l'avais pas dans la liste.
Ossola.
Ossola.
Pas des bêtises. Comme
oh,
ça.
Mais c'est pas beau, ça. Dis donc, on a...
Tu vas pas le couper, au moins.
Nous sommes en direct.
Tu as le droit d'être fan du jeu, il n'y a pas de souci.
Mais oui, faisons des jeux de mots, Valérie.
Mais là, c'était presque une contrepartie. Mais bon. Reprenons. Est-ce que tu m'as fait la bio de Carlo Ossola ?
Non, je ne l'avais pas dans la longue liste que tu m'as envoyée, ce livre que tu as choisi ce matin. Donc c'est
non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est le seul sur lequel je pensais... Non, bah, ce n'est pas grave.
Non,
eh bien, tant pis, improvisation. Donc, c'est un professeur honoraire au Collège de France. Donc, c'est un auteur qui a beaucoup, beaucoup écrit donc, de philosophie. N'est-ce pas ? Mais ce qui n'empêche pas d'être essayiste, et on le connaissait. Moi, je l'avais rencontré ses écrits, parce que c'est lui qui avait traduit le Dante Alighieri, donc sur la Pléiade. Voilà, si peu.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Bon CV.
Voilà, un petit CV sympa. Et là, en fait, son livre, je l'ai acheté parce qu'il était beau.
Ça oui. arrive des fois. Hein,
voilà, ouais. N'est-ce pas ? Non, c'est, il m'avait été il est édité aux Belles Lettres et donc ils ont toujours des très belles publications. La dernière fois, je vous en avais parlé, c'était Ségurant, le chevalier au dragon. Et là, donc, c'est La vie simple. C'est une couverture toute simple, avec un titre tout simple. Et effectivement, donc, dans ce livre-là, il nous parle de... il nous donne quelques mots. En fait, ça revient à un essai, hein, puisqu'on est sur le thème de vivre simplement. Donc, je ne suis pas non plus totalement hors sujet. Et là, il y a plusieurs thèmes. Il va y avoir le dévouement, la générosité, la loyauté, l'affabilité, le tact, la cordialité. N'est-ce pas, Ludovic ?
Ça m'intéresse.
Voilà. Et en fait, c'est des petits chapitres très courts et à la fois très, très étayés, puisque chaque fois, il va se baser sur des lectures anciennes, soit de philosophes, soit de penseurs, sachant qu'il a aussi pas mal travaillé sur Blaise Pascal, Carlo Ossola. Et voilà. Et donc, c'est assez beau, c'est assez compliqué à lire. Moi, au départ, je pensais que ça... Comme il y avait plein de petits thèmes très, très simples... Je me suis dit, oh ben ça va être hyper facile à lire. Et en fait, non, ça demande chaque fois une certaine réflexion. Donc, on nous dit que pour vivre simplement, il faut être à faire preuve de bonhomie, de discrétion, de constance. C'est pas un plaidoyer sur une morale. C'est pas une leçon de morale qu'il nous donne. C'est juste comme des petits conseils, des petits mantras, mais on est loin quand même de Ruiz, Don Miguel, avec les quatre accords Toltec, que je trouve beaucoup moralisateur. Là, on est vraiment voilà, sur on prend, on laisse, on trie, et surtout on apprend plein de choses, parce qu'il il cite tous ces grands auteurs, tous ces grands philosophes. Parfois, c'est un peu compliqué pour qui n'a pas fait ni grec ancien, ni latin, quand le début d'une citation, c'est « Quantum mautus ab illio ». D'abord, il faut traduire, et après, on peut effectivement rentrer dans le thème du sujet, qui voulait dire, n'est-ce pas, Pauline ? Je te voyais acquiescer.
Tout à fait.
Puisque tu lis aîné couramment. Voilà. Non, voilà, c'est très beau, c'est simple, mais c'est à la fois... c'est des choses qui paraissent basiques quand on nous dit ben tiens il faut être cordial, il faut faire preuve de loyauté, ça paraît simple, mais revu de ce prisme là ben ça fait du bien et ça pousse à la réflexion sans se sentir oppressé comme des fois dans certains essais qui vont être très très parti pris.
Oui.
Là voilà, on est
dans la réflexion.
Dans la réflexion,
voilà. Dans la philosophie.
Dans la philosophie, mais sous forme d'essais. Voilà, donc c'est pour l'introduction à vos essais, c'est à vous de prendre la suite. Non, c'est un petit livre qui est absolument absolument magnifique à lire avec engouement.
Il a reçu de nombreux prix, cet homme.
Oui, bah, c'est pas n'importe qui. Hein.
Et il est à l'origine des lundis du Collège de France sur France Culture, qui ont démarré en 2005-2006, mais qui se sont arrêtés depuis.
D'accord.
Voilà, il est professeur au Collège de France.
Oui, je crois qu'il a une chaire, je crois, de philo, quand même. Ouais. Oui, oui, c'est plutôt...
C'est un philologue.
Un philologue, oui.
Ah, qu'est-ce donc un philologue ?
C'est qu'il aime la philo ?
Tout simplement.
Non, je ne sais pas.
C'est une personne qui étudie la langue, il me semble.
C'est une personne qui étudie la langue, oui. Aucun rapport. Merci, Maxime, de remonter le niveau.
C'est pour ça qu'on allait comme ça, pour dire des trucs.
N'importe quoi. On a dit que c'était une émission intellectuelle aujourd'hui.
Pardon.
Très bien, mais Maxime, on va laisser la parole nous présenter un des nombreux livres que tu as choisis.
Oui, j'ai fait mes fonds de bibliothèque, mais du coup, je ne sais pas de quoi vous préférez parler.
Choisis.
On t'écoute.
De la philo ?
La philo ?
Ouais.
D'accord.
Laisse-le choisir ce qu'il veut.
Mais non, mais il hésite. Je l'accompagne dans ses choix, c'est
ouais,
tout.
Oui, ça fait une transition.
Oui, voilà.
Parce que lui, c'est peut-être un vrai essai.
Bon, c'est moins un vrai essai. Je vais du coup plus offrir des livres pour les personnes qui passent le bac de philosophie, si tant est qu'il existe encore. Je crois que ça a beaucoup changé depuis. Mais tout...
Oh, mais quand même, il y a les épreuves.
Il y a des épreuves, bien
oui,
sûr.
Oui, est-ce qu'il existe...
Mais est-ce que ça a déjà existé un bac
d'option
philo
littéraire, je veux dire.
Mais il était en option, ouais. Oui, littéraire, option, avec philo, beaucoup
je
philo.
Je sais pas si ça y est toujours. Ouais.
Bon, en tout cas, j'ai des petits ouvrages de vulgarisation pour toutes les personnes qui sont un petit peu perdues. en philo qui ne savent pas vraiment s'y repérer, pour qui vraiment les noms, les grands noms, Platon, Aristote, Saint Thomas d'Aquin, ou les grandes notions, c'est un petit peu compliqué. J'ai Marianne Chaillant, qui est professeure de philosophie à Marseille, et qui a écrit des ouvrages de pop philosophie, c'est ce qu'elle appelle elle-même ça. C'est des ouvrages qui viennent croiser pop culture et philosophie. Et elle en a écrit notamment deux qui sont assez reconnus, Harry Potter à l'école de la philosophie et Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, dont le titre est très simple.
Assez contemporain, oui.
C'est accrocheur.
En fait, c'est ça, c'est tout son principe, c'est partir de licences qui comptent pour les jeunes générations, bon, la mienne et j'imagine encore celle d'aujourd'hui, et chercher en fait quels peuvent être les objets philosophiques dedans pour penser justement à des auteurs ou à des notions. Donc par exemple, dans Harry Potter, elle va étudier tout ce qui peut faire référence aux notions que Platon a élaborées, qu'Aristote a élaborées. Les questions de la liberté chez Sartre, les questions de Nietzsche aussi. C'est pareil dans Game of Thrones, et elle aussi se laisse un petit peu une marge d'interprétation, puisqu'elle est à la fois lectrice d'Harry Potter et spectatrice de Game of Thrones. Donc il y a plusieurs parties qui sont consacrées du coup à étudier ce que les œuvres elles-mêmes disent de philosophique. Donc vous avez toute une partie dans Harry Potter à l'école de philosophie qui essaye d'analyser ce que J.K. Rowling a proposé comme perle de sagesse, à savoir une réflexion sur la mort par exemple. Donc c'est très intéressant, très didactique à lire, puisque vous avez plein d'extraits d'œuvres qui vont à la rencontre du coup de ce que vous lisez à l'école en philosophie, et vous pouvez du coup un peu mieux comprendre, un peu mieux saisir ça. Moi, ça m'avait sauvé mon bac de philo.
Oui, c'est ce que j'allais dire, le public, c'est lycéen.
C'est ça, oui. C'est lycéen, et même plus tard, après, ça nourrit toujours.
Ah oui, plus tard, j'en doute pas, moi-même, ça me donne envie.
Mais oui, je l'avais lu il y a 2-3 ans, Harry Potter à l'école de la philosophie, j'avais été surpris par la richesse de... vraiment qu'on a de prendre d'autres objets autres que la philosophie pour enseigner justement cette matière, plutôt que vraiment de faire une grosse histoire qui est souvent indigeste et difficile à comprendre.
Eh oui, c'est ça.
Ouais. Feu les malheurs de Sophie, ça y est, on fait autre chose. Ouais. Quoi. Non, c'est super intéressant. Mais elle est Marianne Chaillant, elle est assez drôle dans le thème qu'elle choisit. Elle avait, elle avait écrit un livre qui s'appelait Ainsi philosopher Amélie Nothomb, écrit à la manière d'Amélie Nothomb, qui elle a témoigné publiquement de son enthousiasme pour ce livre. Elle a écrit beaucoup d'essais, hein. Elle a obtenu le prix France Télévisions 2021 pour son essai « Où est donc le bonheur ?». Et l'année suivante, elle a publié à la folie passionnément un essai sur le désir amoureux que va nous présenter Marlène.
Comme c'est bizarre, mais quelle transition, mais on n'a pas fait exprès.
En plus, on n'a pas fait exprès.
Oui, non, mais vraiment. Oui. Mais c'est voilà ce que dit Maxime, c'est totalement vrai. Moi, ce que j'ai adoré là dans son essai, et c'est philosophique, hein, y a plus besoin de le redire, c'est que du coup, elle est vraiment inscrite dans notre époque. Du coup, elle donne vraiment envie de le lire, et même si elle cite des auteurs comme tu as cité tout à l'heure, c'est accessible. Et ça, j'adore. Alors sur À la folie passionnément, alors, c'est pareil, je l'ai dévoré. Vraiment, très très facile. Donc, c'est un sujet, je pense, qui parle à beaucoup de monde aussi, à la folie passionnément. Est-ce qu'on tombe amoureux ? Est-ce que l'amour nous tombe dessus ? Voilà, en gros, on tourne autour de ça. Le désir, est-ce que ça s'arrête à ce qu'il y ait des désirs charnels ou uniquement désirer une personne pour ce qu'on ressent au moment où on l'aperçoit ou, voilà. Donc, c'est vraiment... elle digresse autour de ça dans ce livre-là. Alors... c'est ponctué d'exemples, donc c'est assez. Donc, pour rejoindre un petit peu par rapport aux deux livres que Maxime a cités, là on va avoir des références un peu de tous les styles. Donc, on va passer de paroles de chansons, un petit extrait par exemple de chansons de Jean-Jacques Goldman, de Barbara ou de Nina Simone. On va bifurquer sur des films. Style Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill et d'autres. Hein. Je cite pas tout parce que voilà, le but c'est que vous découvriez. Mais elle cite aussi bien entendu des chefs-d'œuvre de la littérature. Donc on a quand même la plume de Sartre, de Duras, de Verlaine, de Cohen. On a aussi Heidegger qui est cité. Enfin voilà, on vadrouille un peu dans tout. On a, elle prend comme exemple des émissions télévisuelles actuelles sur le coup de foudre. Le soi-disant coup de foudre potentiel comme Marié au premier regard, par exemple. Et pour citer justement que, pour elle, c'est pas forcément possible de faire comme ça. Voilà. On ne peut pas forcer des gens à avoir ce coup de foudre et à tomber amoureux en soi, puisqu'en fait, il nous arrive au moment où on ne s'y entend pas et dans des circonstances qui sont quand même amenées par d'autres. Enfin, voilà. C'est assez, voilà, un sujet intéressant, donc moi j'ai bien aimé. C'est vraiment à découvrir, il faut vraiment le lire, voilà, il faut, y a plusieurs passages, enfin, on a, voilà, elle revient aussi sur pas mal de passages de Duras avec l'amant, elle décortique un peu tout ce qui s'est passé, ce que ça donne, elle parle aussi du fait que dans la littérature, on va vite s'arrêter à... Donc on va aller approfondir le désir, la rencontre, mais dès qu'on va passer sur l'acte sexuel pur, il n'y a pas, sans que ce soit trash, il n'y a pas vraiment cet esprit de désir. Enfin, comment on a pu avoir l'attrait et qu'est-ce que ça engendre après derrière. Donc elle essaye de citer tout ça. Vraiment intéressant. Enfin voilà, un vrai plaisir. Et du coup, j'ai été curieuse un petit peu de voir qui elle était, parce que enfin voilà, j'avais lu les livres mais je l'avais pas vue, donc là je suis allée voir la tête qu'elle avait, je me suis dit mais à quoi elle peut ressembler et tout. En fait elle est encore plutôt jeune en plus, donc on voit voilà, c'est vraiment et elle enfin on se l'est dit tout à l'heure en off, mais c'est vrai que comme prof de philo, moi j'aurais adoré la voir, quoi.
Oui, elle sait rendre accessible les choses.
Ah ouais. Et puis c'est écrit, enfin c'est facile à lire, quoi. Et même voilà, elle cite Anna Karénine là, parce que je tombe sur Tolstoï, voilà. Voilà, elle cite un passage, elle explique, elle décortique autour par rapport au désir, à l'amour, à ce que c'est. Et voilà, c'est tout un déroulé comme ça. Alors sachant qu'elle part quand même de, alors je sais pas si c'est réel ou pas, mais en fait elle part de. On a l'impression qu'elle part de sa propre histoire, parce qu'elle dit que avant, donc que elle, quand elle était étudiante, elle avait eu une prof de philo qui avait essayé de démonter la vision qu'avaient tous les élèves de la classe du désir. Et donc elle le dit en introduction et elle le dit en conclusion. Du coup, et entre, elle chemine, voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment tiré de ce qu'elle a vécu, ou si elle s'est basée sur ça et elle a un peu enrobé le truc pour après, elle, faire passer le message. Mais du coup, voilà, c'est bien fait. Voilà, à découvrir, c'est facile.
Par contre, du coup, elle est sur la même mécanique, un peu tous les deux, prendre des passages de films, de scènes, de livres, et en ressortir... les décortiquer pour ressortir l'aspect philosophique des choses, ça m'a l'air un peu le même principe, oui.
Ouais. Là, c'est vraiment ponctué. Enfin, et on le voit. Enfin, les passages sont
là vraiment, oui, dans les livres qu'elle a écrits sur Harry Potter, Game of Thrones et les autres qu'elle a écrits, c'est vraiment un petit peu la même application qu'elle avait dans ses cours à Marseille aux jeunes élèves auxquels elle enseignait. Là, vraiment, ouais, elle est plus dans une dynamique d'essai et d'analyse vraiment des questions amoureuses et du désir.
D'accord. Oui, elle étudie les professeurs de philosophie au lycée privé catholique Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille. Pour ceux qui aimeraient l'avoir en professeur. On ne sait jamais.
Retourner au lycée.
Et là, bim, elle a arrêté. Oh, zut. D'accord.
Non, puis je trouve ça bien fait, faire décortiquer, oser décortiquer voilà, bon, des titres de la littérature et tout ça. Ou c'est chouette. Mais là, elle va jusqu'à... Enfin, elle prend des chansons, enfin, elle prend des émissions.
Oui, du coup, ça parle...
Des films qu'on a... Enfin, peut-être tous vus, même si, voilà, c'est... je trouve ça super, parce que ça a une bonne accroche, quoi.
C'est salvateur qu'une personne comme Ariane Chaillant existe, justement, et qu'elle prenne pas vraiment les trucs comme des absolus et qu'elle les donne comme ça. Elle essaye vraiment de les rattacher à ce qu'on connaît, à nos propres références, et ça fait plaisir. C'est tout le contraire de ce que fait l'école, généralement. C'est donner un texte et de dire, ben, voilà, c'est comme ça, c'est un absolu, prends-le, c'est très bien. Là, au moins, c'est beaucoup plus agréable.
Mais j'imagine qu'elle doit te citer actuellement. Nous, ça fait longtemps qu'on a quitté le lycée, mais c'est un auteur sur lequel on peut s'appuyer, j'imagine, en enseignant, s'appuyer pour donner envie et permettre la compréhension à des élèves qui n'aiment pas forcément lire.
Bah, en théorie, en philo, enfin, sauf erreur de ma part, puisque mon bac date du siècle dernier, on nous poussait à ça quand même, à avoir nos propres réflexions sur des sujets, sur des textes. Justement, il n'y avait pas d'absolu.
C'est tout l'intérêt de la philo.
Oui, mais les textes ou les références qui étaient citées n'étaient pas forcément très ancrées dans notre époque.
Ah non, non, non.
Et oui, du coup, là... Enfin,
oui, on s'en saisit beaucoup plus facilement.
C'est ce que disait Maxime tout au début. C'est que du coup, là, c'est beaucoup plus facile d'approche. Et du coup, ça t'ancre dans ce que tu vois, dans ce que tu vis, dans ce que tu écoutes, dans ce que... Du coup, c'est plus facile peut-être que effectivement un Aristote ou ouais, d'accord.
Oui, c'est vrai. Refait Aristote.
Tu vois. Voilà.
Allez, on part aux États-Unis à New York avec Robert Darnton pour l'apologie du livre. Il est né le 10 mai 1939. C'est un historien américain spécialiste des Lumières européennes et de l'histoire du livre sous l'Ancien Régime. Qu'y a-t-il
Non, c'est rien, c'est ça le...
Je suis très heureux d'entendre Robert Darnton.
Ah, mais voilà, mais c'est...
Il était comme un fou, il est baissé, ses bras dans tous
les sens. Oh là là, on a un fan, alors bon... Ben,
alors attention, ce que tu veux
dire. Non, mais...
Alors pourquoi j'ai choisi ce livre que j'ai lu il y a 2011, ça fait une dizaine d'années, parce qu'en fait, c'est le seul premier et unique essai que j'ai lu dans ma carrière de lectrice, je pense. Je ne crois pas en avoir lu d'autres de ma propre initiative. Et c'est un essai qui m'a marqué, d'abord parce que j'étais impressionnée par le personnage, puisqu'à l'époque, il était dit directeur des... Alors, je lis de là, mais pour moi, des bibliothèques d'Harvard. Et voilà, donc déjà, je me suis dit, bon, bah, je vais lire un bouquin d'un gars incroyable. Voilà, le gars, il gère quand même une des plus incroyables bibliothèques du monde. Bon. Et en plus, il va faire l'apologie du livre. Alors, j'ai tiqué un peu sur le titre et sa traduction, puisqu'en anglais, on est dans The Case of Books. Alors, plutôt... Lui, il a pas, enfin, il me semble pas que dans The Case il y ait une notion d'apologie. La traduction pour moi est un peu
biaisée.
Ouais. Pour moi, c'est voilà le cas des livres et point, et pas ou l'affaire des livres, mais l'apologie, voilà. Donc je donne le titre original parce que pour moi, il est un peu quand même différent de celui que Robert Darnton avait choisi. Donc, en fait, c'est une série d'essais qui ont été rassemblés dans un seul et unique livre et qui ont été lancés par quand Google, donc on est en 2009 aux États-Unis, en 2011 en France pour la traduction, mais en 2009, Google Books veut numériser tous les livres de la planète et tout mettre en ligne. Et lui, il se lève un peu contre ça. Mais pas pour les raisons qu'on imagine, en fait. Donc là, il écrit ce bouquin où il revient beaucoup sur l'histoire du livre, mais pour expliquer pourquoi il ne s'inquiète pas, en fait, de la disparition du livre papier. Voilà. Il va passer son temps à démontrer que calmons-nous, le livre papier, c'est pas fini et très loin de là. Et ça m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était un discours hyper rassurant. Mmh. Et encore aujourd'hui, il me rassure, même si les choses ont vachement évolué. On est quand même près de plus de 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, grâce à ça, en fait, je m'inquiète pas de la disparition du livre papier parce que il voit ça. Y a une certaine complémentarité. Et puis on se dit, bon, on va perdre des textes hyper importants. Mais en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que, et c'est ce sur quoi il revient, il y a des passages assez surprenants sur ce qu'on a déjà perdu, de toute façon, des textes, le fait que il y a plusieurs personnes qui interviennent dans l'édition du texte. Je vais prendre l'exemple, il cite notamment Shakespeare, dont on a énormément de mal à connaître les textes originaux, parce que finalement, ceux qui ont décidé de diffuser ce qu'il avait écrit ont pris des libertés incroyables avec l'impression, c'est-à-dire j'enlève un chapitre, j'enlève des... Enfin, voilà, donc...
Ah bon?
Voilà, ouais, et il revient sur plein de petites anecdotes comme ça, où finalement, même la traduction, alors je sais plus s'il aborde, mais là, l'exemple que je viens de donner, la traduction, on a une perte de quelque chose, et donc, voilà, beaucoup de gens se disent, le livre papier va disparaître, qu'est-ce qu'on va perdre comme texte, qu'est-ce qu'on va perdre, mais en fait... On perd de toute façon, mais voilà, c'est la communication qui veut ça. Il parle des journaux, voilà, il revient sur le fait qu'on utilise les journaux d'actualité comme source d'information sur l'histoire. Mais pour lui, déjà là, c'est une vision de l'histoire par une personne à un moment particulier, mais c'est pas de l'histoire. Et c'est toute une réflexion là, sur la lecture, sur la communication, comment on prend possession des textes depuis qu'on écrit, depuis qu'on communique via l'écrit. Et en fait, dans le but de nous rassurer, je ne sais pas, mais de nous dire en tout cas, moi je ne m'inquiète pas, et ne vous inquiétez pas, le livre est là et il existera toujours. Voilà. Et je trouve que ce discours, alors, peut-être qu'aujourd'hui, le livre, avec l'évolution du numérique, etc., aurait un petit temps de retard, un gros temps de retard, parce que ça évolue vite. mais il est toujours hyper d'actualité parce qu'en fait, il rassure. Et je trouve que dans notre émission, en plus, c'est bien de rassurer sur le fait que oui, le livre papier, évidemment, c'est pas demain qu'il va disparaître, c'est pas demain qu'on va perdre tous les textes importants, parce que tout ça va ensemble. En fait, il dénigre pas du tout à aucun moment il ne dénigre le numérique, le fait de numériser des textes. Bon, sauf quand certaines grandes entreprises veulent se les réapproprier via la numérisation. Bon, ça, il est moyennement d'accord, mais. Mais par contre, non, le livre tel qu'on le connaît ne disparaîtra pas parce qu'il y a de l'amour de beaucoup de lecteurs pour le livre papier, parce qu'il a des caractéristiques qui font qu'on en a besoin encore aujourd'hui et que les deux types de communication sont finalement hyper complémentaires. Donc voilà, c'est un vrai essai sur voilà, le livre et le livre papier face à l'inquiétude qu'on a vis-à-vis du numérique et qu'est-ce que lui pense qu'il peut se passer. Ce qu'il pense qu'il peut se passer, c'est que c'est complémentaire. Et c'est tout comme beaucoup de formes de communication sont complémentaires depuis toujours. Et on a toujours paniqué au moment des grands changements vis-à-vis des textes. Et pour l'instant, le livre papier n'a toujours pas disparu. Voilà.
D'accord, Valérie, avec ça ?
Mais complètement.
Je pense qu'elle ne disparaîtra pas.
Mais non, c'est pas possible.
T'es rassurée.
Je n'étais pas inquiète.
Les liseuses n'étaient pas sorties en 2011.
Si. Alors, si les liseuses existaient déjà, après, on en il était pas là où pas. On en. Bon, oui, bon, c'est pas le délire total.
Ça aurait déjà décliné.
Eh bien, oui, voilà, je veux dire, là, c'est déjà totalement présent dans nos vies. Ça, c'est loin d'avoir pris la place, à des milliers de kilomètres. Et sur toute forme de texte. Peut-être à part l'information.
Oui, peut-être plus voilà. Sur les médias. Peut-être les quotidiens en souffrent plus.
Oui.
Des lecteurs qui fréquentent la librairie et qui me parlent de liseuses, parce qu'on en parle souvent.
Hein, oui.
C'est pas les jeunes.
Non.
Mais pas du tout, du tout. C'est, au contraire, des fois, ça va être des personnes assez âgées qui, pour des raisons de coût des livres en gros caractère ou du manque de...
Oui, c'est ce que j'allais dire, les problèmes de vue, oui, peut-être.
Je pense que ça accentue la chose à force de lire sur écran, mais c'est... Il y a quand même un comportement avec le papier, puis il y a une sorte de véracité dans l'objet papier.
C'est-à-dire que
l'objet papier ne peut pas être
falsifié.
Non, il ne peut pas être falsifié.
Enfin, si, remarque par l'imprimeur de M. Shakespeare, visiblement.
Maxime, un mot sur cet auteur que donc, toi, tu connaissais.
Moi, je l'ai plus croisé en université, mais pour ses travaux, parce qu'il a travaillé sur l'histoire du livre au XVIIIe siècle. Là.
D'accord.
En fait, lui, à contrario d'une histoire des grandes œuvres comme Voltaire, Montesquieu en France, lui, il a voulu s'intéresser en fait à la littérature clandestine. Souvent, donc, les libraires clandestins, les éditeurs clandestins qu'on trouvait notamment à Amsterdam, qui imprimaient du coup les livres en dehors de la France parce que le pouvoir royal empêchait ça, puisqu'ils avaient la main mise sur les impressions et le pouvoir d'édition. Et il a aussi beaucoup travaillé, c'est pour ça que ça me fait plaisir, parce que je ne l'ai pas du tout lu ce livre, mais du coup je pense que je vais le lire.
Je te le donne avec plaisir.
il a travaillé aussi notamment sur à quel point les œuvres n'avaient pas besoin du papier forcément pour se transmettre. Un de ses derniers essais qu'il avait fait, c'était l'affaire des 14, où une chansonnette qui se moquait du roi et de la reine était remontée jusqu'aux oreilles du gouvernement, et les personnes qui l'avaient écrite et transcrite sur papier avaient été traquées, mais c'était impossible en fait de remonter parce que la chanson s'était diffusée à l'oral. Et lui, il a beaucoup travaillé à quel point sur l'oralité permet de conserver les œuvres.
Et oui, c'est ça, ça se transmet déjà, oui, comme ça.
Et surtout, le papier, ça fait à l'échelle de l'humanité, c'est pas le support qui a été le plus longuement utilisé. Si on remonte à l'Égypte, ce sont les papyrus, si on remonte en Mésopotamie, c'est les tablettes d'argile. Donc, c'est juste une évolution et une continuation. De toute façon, tout matériau est périssable, donc c'est juste une continuité qui se fera. Et surtout, on est dans une effervescence du papier. C'est... Par rapport aux techniques d'impression qu'il y a maintenant avec le livre de poche, on n'est pas dans la mort du papier.
Loin de là.
Non.
Oui.
Alors, s'il a eu la Légion d'honneur en 1999, c'est surtout en 2011, il est récipiendaire de la National Humanities Medal. C'est une médaille remise par Barack Obama en reconnaissance de sa contribution majeure aux sciences humaines. Donc, c'est très haut du panier des récompenses américaines.
Oui, quand tu lis un peu sa bio, c'est pas n'importe qui. Hein.
Non. Il n'a pas soutenu Chevènement à la présidentielle, mais ça, on le verra après la pause musicale.
Il va falloir se justifier, quelqu'un.
Quelqu'un va devoir se justifier, mais bon. Allez, pause musicale, on revient après.
Je suis pas quelqu'un qui retombe sur ses pieds. D'ici demain, je serai de l'autre côté. Oh oh. Par le temps qui court, heureusement, tout se sait. On meurt que d'un amour qui s'est envolé. Oh oh. Pourquoi dompter les chiens? Moi, je veux être loup et de loin. Oh oh. J'envoie les tas qui finissent la gueule cassée. Oh oh. Je sens tout ton souffle qui court dans mon dos. Plus je veux me retourner, plus je tombe de haut. Ah ah.
Allez, on est de retour dans cette émission avec Valérie qui va nous présenter un nouveau livre qui est... Alors là, par contre, j'ai les bios de tous les auteurs que
Ouais, vas-y. Ah, mais par
N'importe qui,
je te rappelle juste comme à la pause musicale, tu as parlé de Chevènement.
Ah, ce n'est pas toi.
Mais non, bon, ce n'est pas moi.
On laisse le suspense.
Non, mais moi, il y a des fois des suspens que je n'ai pas envie de laisser planer au-dessus de moi. C'est comme ça. Ouais, et je n'ai pas envie de les laisser planer au-dessus de Comte Sponville André ou André Comte Sponville. C'est toi qui me dis dans quel sens.
C'est Comte Sponville, qui est né le 12 mars 1952 à Paris et qui est un philosophe français.
Oh, mais c'est encore un philosophe.
Oh. Oui, oui.
Mais vous m'accordez quand même que c'est un essayiste, monsieur Ludovic ?
Bien sûr.
Voilà. En l'occurrence, là, c'est un essai, La clé des champs et autres impromptus. Là, c'est un essai. Alors, c'est un essai... Moi, j'ai beaucoup de mal avec les essais parce que j'aime beaucoup les histoires. J'aime quand il y a un début, une fin. Mais là, il y a beaucoup de débuts et beaucoup de fins. Et notamment, quand on parle de fin, ben, ce livre va beaucoup traiter de mélancolie, de mort, de décès, de tragique, de pessimisme, de bagne, de suicide, de mort programmée. Mais point de noirceur dans le propos. J'essaye de l'amener de façon. Non, c'est alors c'est surprenant. Après, en même temps, je me doutais que ce serait pas une écriture. Enfin, si l'écriture elle est agréable, je me doutais que le sujet n'était pas des plus agréables, mais le sujet est des plus nécessaires puisque dans ces dans tous ces essais, en fait, c'est bourré de. Bon, on est quand même toujours autour de ces mêmes thèmes que je vous ai cités, qui vous ont donné envie de sauter par la fenêtre, mais tut, ne sautez pas. On va avoir quand même une approche chaque fois très, très douce et très. Très philosophique de la chose. Je ne savais pas qu'il était philosophe, c'est incroyable.
Eh ben ouais,
comme si Jacques, toi qui me fais les bios. Et voilà, donc on va parler de pandémie, on va parler de combat, on va parler de courriers qui sont faits, donc, et notamment un sur la fin où en fait André Comte-Sponville va faire une lettre à sa mère. Ni plus ni moins, et c'est voilà, donc c'est un essai sur tous ces sujets en fait qu'on n'ose jamais aborder, qui sont la fin de vie, la mort, la perte d'eux, et c'est amené avec beaucoup de philosophie, beaucoup de réflexions sur comment c'est des pistes en fait sur comment aborder tous ces thèmes là sans pathos, avec lui dit sans tristesse, mais bon, quand même un peu. Mais voilà, on va surmonter, on va peut-être pas accueillir avec joie un deuil, mais on va en le lisant se dire que oui, c'est possible de le surmonter. Alors je suis désolée, je recite le mot pour la 148e fois, mais on va le surmonter. Non, avec philosophie. Voilà. Donc c'est très, je pourrais pas dire beau parce que ce serait mensonger vu le thème, mais ça peut être agréable à lire, mais je sais pas dans quelle période de sa vie il faut lire. Est-ce que c'est un livre qu'il faut lire quand tout va bien? Je ne suis pas convaincue. Est-ce qu'il faut le lire quand on vient de subir ou qu'on sait qu'on va bientôt perdre quelqu'un? Je ne suis pas sûre, donc c'est peut-être un livre...
Est-ce qu'il faut le lire?
Justement, ben oui. Oui, parce que ça peut justement préparer à... Mais le sujet est quand même... Enfin, quand on s'y plonge dedans, c'est quand même assez engagé. Donc c'est un essai réussi, hein, puisqu'on a, par rapport à la définition que tu as donnée de ce qu'était un essai, on est totalement dans le sujet. Voilà, à lire, je... Après, je ne sais pas. Je ne sais pas quand et je ne sais pas comment. Je dirais peut-être entre deux livres un peu réjouissants, entre deux romans qui font du bien, peut-être. Ou alors, justement, après quelque chose d'horrible et pour se remettre un petit peu.
Pour tomber encore non, un peu plus.
Non, parce qu'il y a, comme je disais, il y a ce côté quand même philosophique, hein, où ça nous aide à prendre la hauteur par rapport à tout ça, pas à chercher des solutions, mais en soi et non pas dans les écrits en fait, par rapport à la vie simple dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y avait des solutions chez les philosophes grecs ou latins. La solution, elle est Il nous l'amène un petit peu, mais c'est voilà, c'est sans non plus rentrer dans qu'est-ce qu'il faut penser pour que ça aille. On n'est pas on est très très loin de littérature feel good aussi, mais voilà, c'est alors c'est peut-être, j'ai peut-être moins été sensible parce que je suis pas très essai à la base. À voir, à lire, et vous me direz.
Très bien, c'est la maison d'édition, on n'en a pas beaucoup.
Oh, c'est aux Presses universitaires de France, là c'est au PUF.
C'est au PUF, voilà. Ok. Merci Valérie. Maxime.
Eh ben très bien, il y en a beaucoup, et du coup je ne sais pas du tout quoi.
Fais un truc gay là, pour transition.
Un truc gay.
Ouais, parce que là on a perdu la moitié de nos auditeurs.
Un truc qui sent bon, tu vois, un truc qu'on a envie de croquer à pleines dents.
Dans les essais.
ouais.
Un truc qu'on a envie de manger avec son café le matin. Okay. Je peux pas aller plus loin là.
Je sais pas si Camus ou Daniel Pennac vous indiquent.
Ah d'accord, moi je parlais du croissant, mais bon.
Ah
non, t'as pas envie de parler de.
Bon, vu que ça parle plutôt d'éthique et de morale et de savoir quoi faire, je sais pas si ça ramènerait un peu plus d'angoisse.
Laisse-le choisir, Valérie.
Non, mais je pense que je vais prendre comme un roman de Daniel Pennac.
Bien.
Je pense. Un peu plus encourageant. Donc Daniel Pennac, c'est un auteur. Un auteur de romans, auteur de la saga des Malocènes, et qui a écrit ce petit essai, qui est vraiment un essai au sens vraiment d'une tentative de réflexion, et qui commence par cette première phrase vraiment qui résume à peu près toute l'œuvre. Le verbe lire ne supporte pas l'impératif. C'est tout ce qui va guider l'essai. C'est un essai sur la lecture, en fait. Et pour Daniel Pennac, il y a un immense problème vis-à-vis de la lecture, c'est qu'il y a une obligation de lire qui plane sur toute personne. Et selon lui, en fait, tout ça, c'est contraint à partir de la naissance. C'est-à-dire qu'à la naissance, en fait, on découvre le plaisir de lecture quand nos parents nous racontent des histoires. Le soir, ils nous racontent des histoires gratuitement, simplement, on s'évade le soir avant de s'endormir dans une histoire. Et lorsqu'on arrive à l'école, on nous raconte à nouveau des histoires, mais on nous dit « Très bien, maintenant, explique-moi. »
Ah, quelle horreur.
Et du coup, on met la distance et du coup, la personne est du coup cramponnée au livre et obligée de l'étudier, obligée de l'expliquer, et n'a plus la liberté. Et du coup, selon lui, c'est ça le problème, c'est cette obligation de lire. Et en fait, il va passer tout l'essai du coup à décrire ce moment où une personne va perdre l'envie de lire et comment on peut la recréer. Il va parler du coup de l'obligation de lire qui vient surtout à l'école et de comment les professeurs peuvent contrer ça. Et lui, vraiment, son appel, c'est en classe de lire gratuitement. Lire simplement vraiment une lecture buissonnière. Il cite plusieurs personnes. Il cite lui-même, en fait, puisqu'il a été professeur avant d'être auteur. Lui-même, il faisait ça étant professeur. Il prenait une demi-heure où il lisait des incipits, où il lisait des extraits au hasard pour donner envie de lire. Et c'est ce qui mène, en fait, justement à un petit peu la somme de sa pensée, qui est d'ailleurs au dos de la couverture, ce sont les droits imprescriptibles du lecteur, dont littéralement le premier droit est le droit de ne pas lire. Et c'est très enlevé, c'est très malicieux, comme l'écriture de Daniel Pennac. C'est toujours très drôle, très... il mélange à la fois du coup des extraits de livres, il mélange ses propres réflexions, il mélange des dialogues. On n'a pas vraiment une réflexion pure, mais vraiment une réflexion qui valse en fait entre plusieurs voix. Il y a tout un moment en fait où il décrit une scène, d'une scène de classe où des élèves justement attendent de s'ennuyer en cours de français et où le prof vraiment leur fait changer d'avis juste en leur lisant l'Incipit du parfum de Patrick Susskind. Et vraiment il utilise des petites situations de fiction jusqu'à voilà arriver avec ses droits imprescriptibles du lecteur. Et ça, je trouve que c'est formidable qu'un tel ouvrage existe pour redonner envie de lire, c'est à faire lire du coup aux personnes qui ont peut-être du mal à lire, mais surtout aux personnes qui imposent sûrement de lire.
Je tiens totalement cette démarche. C'est,
c'est très pertinent. Comme il le rappelle lui-même au début, on est prié, je vous supplie de ne pas utiliser ces pages comme instrument de torture pédagogique. Mais c'est formidable. J'avais lu ça vraiment avant d'entrer en prépa et ça m'a enlevé beaucoup d'angoisse vraiment quand on nous a obligés à lire des trucs.
Ah ben oui, j'imagine. On te laisse la parole, Maxime. Allez, vas-y.
Encore ?
Ouais.
Ouais, t'es trop.
Ben oui, Marlène n'a lu qu'un livre. Alors.
Et l'autre, à peine attaqué, tout de suite refermé.
Bon, est-ce que je repars un peu plus du sérieux ?
Ouais, ça j'aime bien la couverture en tout cas, elle est très belle.
Le syndrome Magnéto de Benjamin Patineau. Alors Benjamin Patineau, ce nom ne dit peut-être rien s'il y a des personnes qui écoutent et qui fréquentent YouTube, mais il est très connu comme YouTuber puisqu'il s'appelle, et tout est résumé en fait dans son nom, il s'appelle Bolchegeek. C'est une personne qui a décidé d'associer vraiment la philosophie marxiste et l'analyse d'œuvres de pop culture. Et aujourd'hui, il a beaucoup évolué, sa chaîne a pris de l'ampleur. Il est journaliste pour l'Humanité, il produit des petites vidéos d'analyse de pop culture sur la chaîne YouTube de l'Humanité. Et il a passé son temps en fait, à faire des vidéos d'analyse avec des outils, des clés d'interprétation marxiste. Il a par exemple analysé Anastasia, les Disney. Il avait même fait une vidéo aussi où il a analysé non seulement la série Squid Game, mais tout l'appareil socio-économique qui a produit cette série. Et il avait notamment fait une vidéo qui s'appelle « Le syndrome Magnéto », où il part en fait donc du fameux personnage de comics, Magnéto.
Des X-Men.
Et du parallèle qu'on peut faire entre lui et Malcolm X à l'époque. C'est-à-dire, au moment...
Non, mais... Ça va chercher.
Pardon. En fait, c'est vrai que j'ai balancé ça un petit peu comme ça. En gros, c'est un peu plus clair. Au moment où les X-Men paraissent... ça sort tout droit du cerveau de Stan Lee, le cerveau un petit peu bouillonnant, et c'est au même moment que le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Et avec le temps, entre le personnage de Charles Xavier, qui est le mutant modéré, qui rallie les mutants à sa cause et qui cherche à aider l'humanité, et Magneto, le mutant plus extrémiste qui est prêt vraiment à faire sombrer l'humanité pour faire triompher les mutants, certains y ont vu possiblement une différence, la même chose qu'entre Martin Luther King et Malcolm X. Et en fait, pour lui, Magneto... C'est quelqu'un qui a été créé comme un méchant à la base, vraiment complètement tyrannique, méchant, cruel. qui change complètement à partir des années 90, quand un auteur qui s'appelle Chris Claremont va augmenter son histoire en nous faisant découvrir son passé, lorsqu'on découvre que Magneto a subi l'horreur des camps de concentration. Et donc, à partir de là, et toute l'histoire des X-Men qui sont persécutés parce qu'ils sont mutants, ça va résonner, avec du coup le mouvement des droits civiques, les apatrides juifs qui ont subi malheureusement l'horreur des camps de concentration. Et selon lui, du coup, il y a une question qui se pose quand on voit ce genre de personnage comme Magneto. Pourquoi est-ce que c'est un méchant ? Si en ce cas-là, tout ce qu'il veut faire, c'est changer la société et faire en sorte que les horreurs qu'il a vécues ne se reproduisent plus. C'est pour ça que son sous-titre, c'est « Et si les méchants avaient raison ?» Donc, il a développé, ça dans, il a développé ça dans une vidéo où il analysait en fait ce qu'il appelle le syndrome Magneto, c'est-à-dire des phases d'écriture où un personnage en fait est créé pour être un méchant, et ce qui fait que petit à petit, même malgré ses bonnes intentions, malgré les horreurs qu'il a vécues et ses projets de société, lui-même il dit genre des utopistes malencontreux ou des révolutionnaires, pourquoi ils vont petit à petit basculer en méchant. Et selon lui en fait, c'est qu'il y a un paradigme dans la culture, dans la pop culture, c'est que ça part tout simplement d'une première idée, c'est que selon lui, en fait, le méchant agit et le héros, par contre, lui, réagit. Et en gros, pour lui, là où le méchant, en fait, prête plus le flanc à la critique et propose de changer les choses, le héros, lui, fait juste défendre un statu quo. Pour lui, en fait, le héros est un chien de garde, en somme. Et du coup, selon lui, en fait, les méchants sont très utiles pour questionner le rôle des super-héros comme protecteurs du statu quo, d'une culture dominante. Possiblement, même, il est lui-même marxiste, donc il pousse l'analyse encore plus loin, d'un ordre carrément bourgeois, et pour voir à quel point les méchants, justement, ont souvent été, codés méchants, justement parce qu'ils sont ce sont des personnes qui proposent des modèles de société alternative, ou des personnes complètement autres, qu'elles soient en fait, par leur sexe, leur race, leur origine, leur couleur de peau. Il l'a augmenté en fait dans ce livre. À la base, il analysait juste la construction narratologique des méchants, mais il a consacré plusieurs chapitres où il essaye de voir en fait qu'est-ce qui caractérise un méchant. Il a notamment fait tout un chapitre sur ce qu'on appelle le codage queer, c'est-à-dire que dans les œuvres, le fait d'appliquer un personnage des caractéristiques queer, soit LGBT, pour le diaboliser en fait d'une certaine manière. Et du coup, tout son livre en fait qu'il a vraiment augmenté pose cette question voilà de si les méchants avaient raison en fait, si c'était plutôt eux en fait qui étaient...
Dans ta démonstration, les héros paraissent quand même assez faibles et assez... Là, on revoit les héros...
En fait, c'est ça, oui. Ils servent à se positionner, en fait, justement, les méchants. Ils dénoncent l'hypocrisie des héros, ils les forcent à se positionner, à faire mieux.
C'est vrai que là, pour ce personnage, il y a une dualité avec Charles...
Avec Charles Xavier.
Avec Charles Xavier, et c'est un méchant, mais qu'on comprend, finalement, parce qu'il y a beaucoup de ségrégation dans les X-Men aussi, tout le rapport. Non, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas ce YouTuber. J'irai voir un peu ce qu'il en est. En tout cas, la pochette est belle la démarche est intelligente. C'est chez qui
C'est au Diable Vauvert.
Au Diable Vauvert.
Formidable maison.
Chez nos amis gardois.
Ouais, qui publie Bukowski, pas mal.
Neil Gaiman.
D'accord. Vers Alès, non, c'est ça?
Oui, ouais, pas très loin d'Alès, du coup, littéralement,
à Vauvert. Ah ben oui, c'est à Vauvert. Suis-je bête? Suis-je bête? Merci, merci beaucoup, Maxime. Tiens, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui voulait présenter un livre sur un vétérinaire spécialiste en psychiatrie et médecine du comportement pour éleveurs, éducateurs, laboratoires institutionnels ou vétérinaires. Mais il n'est pas là, c'était La folie des chats de Claude Beata.
Parce que la préface était faite par Cyril Nick. Que ça m'avait donné envie.
D'accord. Mais c'est intéressant d'avoir un essai d'un vétérinaire spécialiste en psychiatrie. Oui. Voilà, je ne savais pas que ça existait. Allez, la parole altérée, considération inquiète de l'expression publique de François Taillandet.
Alors, ne parle pas de François Taillandet, parce que je me suis épargnée la lecture de la bio avant la lecture de l'essai pour éviter toute influence du personnage. Oui. Pour lire le texte, hein, s'il te plaît.
Après, avant que cette émission commence, quand je t'ai dit, tiens, il y a quelqu'un qui...
Oui, j'ai tout de suite deviné, parce que
Jean-Pierre Chevènement au premier tour de 2002, tu m'as dit ah, est-ce que ce serait pas Jean-Pierre Taillandet? J'ai dit attends, je vais vérifier parce que je n'étais pas sûr. Ah ben oui, c'est lui. Oui.
Ah donc c'est lui, c'est Pauline encore une fois.
C'est toujours ma faute, je suis désolée. Mais effectivement, il y a un petit ressenti. J'avais pas forcément besoin de lire sa bio pour. C'est très beaucoup d'a priori, mais pour me faire une idée du personnage. Et là, pour le coup, sans transition totale, puisque on est dans la politique pure, hyper moderne, la parole politique. C'est un livre qui m'a intéressée. J'ai bien aimé le lire. J'ai bien aimé le lire là, la semaine dernière, un certain soir vers 20h où un politique important s'est exprimé et que du coup j'ai écouté ses paroles avec beaucoup d'attention parce que en fait c'est un essai sur la parole politique. Alors après, 70 pages auraient suffi, là où il en a fait 170. Bon, voilà. Du coup, ça tourne un peu en rond, mais c'est quand même. Il y a quelque chose dans ce bouquin, en fait, c'est sur le fait que si on écoutait un peu plus attentivement nos politiques, on se rendrait compte du vide et du flou qu'il y a dans tous les mots qu'ils utilisent. Voilà, ce qu'il répète très très souvent tout au long de son livre, c'est qu'on se dit toujours « Oh, mais on voit très bien ce qu'elle veut dire ». Mais non, en fait, non, on ne voit pas ce que veut dire. Donc, il revient sur certains mots, certaines formules utilisées par les politiques pour des raisons ou pour d'autres, des choses qui nous semblent assez simples. Quand on parle d'immigration, on a l'impression que c'est clair pour tout le monde. Mais si j'interroge rien que les 5 personnes qu'il y a à cette table et que je leur dis « Bon, bah, qu'est-ce que c'est pour toi une personne immigrée ?» On aurait 5 définitions différentes. On va nous faire un grand discours sur l'immigration et selon la personne qui fait ce discours, la personne qui l'écoute, personne ne va se comprendre. Et voilà. Et donc, ils travaillent beaucoup là-dessus, sur l'évolution des mots qui font un peu bien, comment les régions, les départements sont devenus des territoires. Voilà. Et que, du coup, le fond de sa pensée, c'est que le discours politique est totalement rempli de flou. Voilà. Que, finalement, si on l'écoute réellement, c'est assez vide. Notamment, il revient beaucoup sur les meetings. La forme meeting et la forme talk show qui finalement n'apporte pas grand chose à part griser un peu la foule.
Se conforter dans les certitudes qu'on a déjà.
Voilà, et puis bon, se faire applaudir, faire crier les gens, mais si on écoute dans le fond. Et il le fait assez bien en revenant sur des petits mots, sur en plus, voilà, il touche les bords politiques. Il touche tout le monde, hein. Il s'arrête pas. Et il revient, il y a des passages qui m'ont fait rire, parce que finalement, si on prend des morceaux de discours, il cite à un moment un discours d'une femme politique qui dit « Ce beau pays qu'est la France, où des fleuves coulent le long des montagnes et rejoignent la mer. » Et voilà, il dit... Et là, quand tu l'écoutes, tu fais pas forcément gaffe, mais en fait, voilà, quand il le prend tout seul comme ça, tu te dis « Mais attends, j'ai... » Il y a des gens qui étaient en face et qui ont dit « Ouais, la France enfin, !»«
Les montagnes, ouais !»
Donc voilà, il y a eu des passages qui m'ont fait rire, parce qu'il y a même des passages, des mots que nous-mêmes, que moi-même j'utilise, et qui en fait, voilà, c'est des mots un peu qu'on balance comme ça, et qui ne représentent rien. Et quand tu les dis, la personne en face de toi n'entend pas la même chose, n'entend pas forcément ce que tu voulais dire. Donc c'était voilà, c'était une lecture avec des moments assez drôles parce que il a pas forcément un ton toujours moqueur, lui c'est pas ça qu'il fait, il a plutôt on a dit beaucoup décortique pendant cette émission et lui il est plutôt dans décortiquer, mais moi ça m'a fait rire parce que voilà, il va prendre deux extrêmes et il va citer des passages de discours qui sont exactement les mêmes mais qui ont un sens totalement opposé selon la personne qui le dit, selon la personne qui l'écoute. Et bon, c'est pas hyper encourageant pour la politique, mais c'est assez drôle. Ce n'est pas dit du tout sur un ton drôle, mais c'est assez drôle quand on le lit. Et voilà. Et quand je l'ai lu en plus, voilà, le soir d'un très long discours de notre président, et c'était la situation était assez surprenante, et ça a bien marché ce soir-là.
Tu t'es imaginé que tu le dans d'autres contextes, t'as sorti un peu les phrases du meeting ?
Eh ben oui, et puis je me disais, mais je m'imaginais lui poser des questions, mais là, vous utilisez telle tournure, qu'est-ce que vous voulez dire ? Et là, je me dis, mais en fait, ils sont incapables de nous... de nous expliquer, même moi, voilà, à un moment, il y a un passage qui m'a
mais
fait...
Mais c'est pas leur but, en fait.
Voilà, le bourgeois... Le bourgeois face au beauf. Et alors, c'est des mots, moi, j'avoue que j'utilise. Et en fait, si on me demandait de définir le bourgeois et le beauf, ce serait assez vide finalement ce que je dirais. Alors peut-être que certaines personnes pourraient voir ce que je veux dire, comme il dit souvent, mais finalement tout ça c'est très subjectif. Et de la part d'un politique, il faut qu'il y ait un peu plus de sens, c'est ça ce qu'il veut nous dire. Voilà. Donc finalement, c'était un peu long, du coup ça tourne en boucle, parce qu'on revient toujours à la même chose, mais c'était assez rigolo. Et j'écouterai d'une autre oreille les discours politiques. Je pense que je rigolerai un peu plus.
On pourrait en écrire des tomes sur les discours des politiques.
Ah bah oui, là, oui.
Alors il est assez drôle cet homme, il était candidat à l'Académie française en mars 2009, il voulait le fauteuil de Maurice Reims, il a obtenu 2 voix. Donc il a réussi en 2018, il s'est fait rincer. En 2018, il a de nouveau essayé, ça n'a pas marché, donc on va lui donner rendez-vous en 2027, on ne sait pas. On arrive à la fin de cette émission, donc on va rapidement clôturer. Qui c'est qui veut parler de c'est d'un livre ou... Valérie,
comme non tu veux, non. J'ai appris un mot par un livre, donc...
Alors, est-ce que ça serait par hasard gaslighting?
C'est exactement ça, parce que je voulais faire manspreading, mais je vois que maintenant, tu arrives à plier tes jambes correctement en-dessus de ta chaise. Donc là, oui, c'est le gaslighting.
C'est Hélène Frappe, le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes.
Absolument. Et le gaslighting, en fait, c'est un mot qui a été élu mot de l'année 2022. Alors, je ne suis certainement pas assez féministe. J'ignorais totalement ce terme. Pour moi, c'était un terme qui était scientifique, qui voulait dire baisser petit à petit le gaz dans une lampe pour la faire s'éteindre. Voilà, mais je suis tellement terre à terre. Suis-je bête? Et certainement trop bien entourée pour ne pas avoir jamais subi le gaslighting. Et donc, Hélène Frappa, donc, qui est philosophe, désolée, je n'ai pas fait exprès.
On va détourner une émission.
C'est ça. Donc, si un jour on va faire une émission spéciale philo,
tu liras des essais.
Voilà, c'est ça. Non, et c'est effectivement le gaslighting, c'est l'art de faire taire les femmes. Donc il y a eu un film qui est sorti, donc c'est la vidéo, les images que j'ai là sur ma jaquette, c'est Ingrid Bergman, en fait raconte l'histoire, c'est Gaslight, le livre, le film, où Paula va petit à petit devenir folle, et non pas qu'elle devienne folle, mais son mari va petit à petit, à l'aide de petits mots, de petits gestes du quotidien, lui faire comprendre qu'il faut qu'elle se taise, lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête d'avoir une opinion, il faut lui faire comprendre que... Et petit à petit, voilà, on voit cette femme réduite. Alors, je dis femme parce que là, en l'occurrence, c'est l'art de faire taire les femmes, mais je connais des femmes qui ont aussi fait taire des hommes. Hein, donc, il y a point de vue
inverse existe. Ouais, oui.
Voilà. Je ne suis pas en train de dénoncer un patriarcat, quoique là, on est parti, voilà, n'est-ce pas?
On est l'objet d'un chapitre de mon livre.
Mais j'en doute pas. Mais c'est, voilà, ça part quand même de là, et c'est, y a beaucoup de à chaque chapitre, en fait, il cite un auteur, donc on va avoir plein d'auteurs différents, plein de films, des choses, elle cite, pardon, des choses très concrètes sur des moments de la vie, soit en littérature, dans le cinéma, dans la vie de tous les jours, la vie politique, comment est-ce qu'on a fait taire des femmes, en fait. Donc là, elle est partie du cinéma, de ce film. Mais il y a la femme déborde, l'ordre patriarcal doit faire taire la cacophonie de ses deux bouches. Rien que ça. Il doit contenir son corps et son cerveau malade entre des murs et des portes closes de sa maison. Et c'est que des chapitres, en fait, qui montrent comment, en fait, il faut...
Marlène n'est pas d'accord.
Non, mais bien sûr. Non. Mais personne n'est d'accord avec ça. Et c'est très fin, parce que le gaslighting, moi, je ne connaissais pas ça. Mais c'est une façon une manipulation d'une femme par son époux. Alors, on peut le dupliquer à qui on veut. Le gaslighting, on le voit tous les jours sur comment... Ça fait un lien incroyable avec ton talentier, là. Sur comment, en fait, on peut faire taire une personne, on peut faire taire une pensée, un courant, une mouvance, on peut par des petits gestes, des petits mots du quotidien. Et voilà, j'étais contente de découvrir ce mot gaslighting.
Mais là, assez... dans le cas de ton livre, c'est quand même féministe
à fond, ouais. à fond. Mais de toute façon, tous les exemples qu'elle cite, c'est vraiment l'homme sur la femme. Après, moi, je prends du recul par rapport à ça, et en me disant, voilà, il y a, oui, mais Il y a aussi des femmes qui sont
tarées. Ça existe aussi, oui, voilà. On le voit.
Mais là, en l'occurrence, oui, elle a des exemples très précis, très argumentés, très étayés de... Et à chaque chapitre, elle passe en plus d'une époque, d'une mouvance différente. Et on revient au même constat que la femme, elle peut être aussi réduite au silence par un étranglement, hein, puisque si elle est étranglée, elle perd ses cordes vocales. Et là, ben, de ce fait, elle va être beaucoup moins présente pour parler. Donc voilà, c'est tout ça. C'est assez intéressant comme vision des choses, et le fait de l'avoir pris par le biais du cinéma, de tirer de ce film-là qui a été tourné, je crois, dans les années 40, c'est assez intéressant, ouais.
Merci voilà. Valérie, voilà, mais c'est à ça aussi que servent les essais, c'est à prendre parti. Elle est l'auteur d'une fiction radiophonique intéressante sur Marie Shelley, fiction qui s'appelle Une fiction avec un musicien, Olivier Mélano, qui a composé la musique. Elle a travaillé pour France Culture, notamment elle était productrice du magazine mensuel de cinéma Rien à voir, mais qui s'est arrêté en 2009, enfin du moins elle a arrêté. Écoutez, merci beaucoup. Maxime, est-ce que tu veux finir par un dernier livre ou c'est bon pour toi ?
C'est bon.
Eh bien, le mois prochain, on va changer complètement de thème. Maxime, tu es bien entendu invité à la prochaine émission, si
ça
tu es par là. Voilà,
c'est moins sûr, là.
Plaisir, mais je te sens...
On va parler de New Romance et de Dark Romance. Voilà, c'est le thème de Clarisse qu'on
à
salue.
Bientôt. Voilà. Non, je plaisante.
Et de Romantésie aussi.
Qui n'est pas là, qui fête son anniversaire. Et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et donc, dans un mois, ça va être... La folie, on va être foufou. Allez, et merci à tout le monde, et comme dirait l'autre,
au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.